La ville de Goma au nord Kivu est déclarée ville sans armes par le commandement de la 34e région militaire. Selon le général Emmanuel Lombé, cette mesure pourra mettre fin à la situation d'insécurité dans cette ville. Mais la société civile du nord Kivu pense que cette disposition ne suffit pas. Elle propose que des sanctions fortes soient prises contre des policiers de la patrouille, accusés souvent d'alimenter cette insécurité dans la ville. Quelle analyse faire de cette déclaration? Pour en parler, je reçois Maître Juvenal Munubo, député national de l'opposition, il est cadre de l'UNC et rapporteur de la sous-commission Forces armées de l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, cher Alain. Bonsoir à tous les auditeurs.
Feller Lutai Chiroa, il est vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le vice-gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs et à l'honorable Munubo.
Jean-Jacques Wondo, expert en questions militaires et analyste politique. Bonsoir, monsieur Wondo. La réalisation me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Entre-temps, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La ville de Goma a déclaré ville sans armes. Le commandement de la 34e région militaire, qui a publié ce mercredi un communiqué à ce sujet, pense que cette mesure pourra mettre fin à la situation d'insécurité dans cette ville. Mais la société civile du Nord Kivu affirme que cette disposition ne suffit pas. Gisèle Cage.
Tous les militaires commis à la garde des officiers généraux et officiers supérieurs en mutation, de même que tous les officiers sans fonction, doivent rejoindre la localité de Bweremana, environ 50 km au sud-ouest de Goma, pour se faire identifier. Le même communiqué de la 34e région militaire stipule que les escortes de commandants secteurs, de commandants de brigades, ceux des régiments et bataillons doivent rejoindre leurs unités respectives. Le même communiqué appelle ceux qui détiennent illégalement les armes à le remettre à la police ou aux forces armées de la RDC. 48 heures après la publication de ce communiqué, la police militaire va procéder à un contrôle de tous les militaires non en règle dans la ville de Goma, selon le général Emmanuel Lombé. Pour lui, ces mesures sont prises pour faire face à l'insécurité grandissante observée depuis plusieurs mois maintenant dans la ville de Goma. Mais pour la société civile du Nord Kivu, ce n'est pas suffisant. Le cadre de base devrait s'impliquer eux aussi. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Merci Gisèle Cage. Monsieur le vice-gouverneur Feller Lutai Chiroa, je me répète, vous êtes vice-gouverneur du Nord Kivu. D'après vous, qu'est-ce qui justifie cette décision?
Oui, c'est une décision qui est subsidiaire au communiqué que le comité provincial de sécurité du Nord Kivu et la régie à la MONUSCO avait communiqué le 8 octobre. Nous avions commencé par le territoire de Massissi qui a été déclaré territoire sans armes pour une période de un mois. Et c'est pratiquement la même mesure qui se poursuit sur la ville de Goma. Parce que le un mois veut pratiquement s'accomplir et nous considérons qu'après cela, il va y avoir des opérations militaires, des fouilles, des bouclages, à la fois dans le territoire de Massissi, mais aussi dans la ville de Goma. Et c'est ainsi que cette mesure, c'est une mesure qui pourrait pratiquement réduire l'insécurité. Et nous considérons que ça, c'est un facteur très important, l'insécurité qui serait due à des éléments incontrôlés, mais aussi au fait que Goma, ayant été le carrefour des déplacements du territoire de Rutshuru vers Massissi ou de Massissi vers Rutshuru, et même pendant la période des opérations, nous sommes en période post-guerre. Et il se pourrait qu'à Goma, on puisse avoir beaucoup d'escortes sans commandant ou alors des commandants qui séjournent dans la ville mais qui ne sont pas encore déployés, raison pour laquelle la mesure est saluée par toute la population pour réduire l'insécurité au niveau de Goma. pour une période courte de 48 heures, après laquelle période le contrôle et la fouille vont suivre. Et nous sommes heureux que la société civile puisse aussi sentir qu'elle a une part, parce que toute la population devrait accompagner les mesures prises par les FARDC.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, vous venez de citer parmi les causes de cette insécurité à Goma, des éléments incontrôlés et puis des déplacements des populations. Est-ce qu'on pourrait dire que pendant tous ces mouvements, il y avait quand même un certain relâchement du côté de la police et des autorités militaires?
Non, vous savez que Goma, à un certain moment, a été la proie du M23. Et pendant cette période, les militaires avaient battu retraite vers l'ouest. Les opérations de reprise de nos territoires s'étaient organisées et juste à quelques kilomètres de Goma, Mutaho, Munigi, à trois antennes vers Kibumba, c'est juste à quelques kilomètres de Goma, parce que Goma est entouré dans sa partie ouest et nord par le parc, et on a chassé le M23 pratiquement à partir des abords de Goma. Et alors, il y a eu beaucoup de militaires qui devaient partir de Rutshuru, retourner ou de Masisi allant au front, mais aussi il y a eu des blessés qui devaient se faire soigner à Goma et retourner au camp. Il y a eu donc beaucoup de mouvements et nous pensons que la mesure arrive à point nommé pour qu'on puisse assainir Goma et accroître ainsi la sécurité.
Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, le communiqué stipule également que toute personne civile ou militaire ayant à sa disposition un soldat de garde doit désormais avoir un bulletin de service dûment signé par le commandant de la 34e région militaire. Et donc jusqu'à présent, il y avait quand même, il faut le reconnaître, un désordre organisé.
Pas un désordre organisé. Vous savez que parfois, il y a des pépigaleuses qui pourraient simuler et même cacher des opérations d'insécurité parce que à Goma, quand le M23 avait pris la ville, vous savez qu'il n'y a qu'une seule année, et nous avions plus de 500 militaires qui étaient prisonniers qui étaient détenus dans la prison centrale de Goma, la prison Mundende, et qui avaient été relâchés. Nous savons qu'il y a beaucoup de causes de l'insécurité, mais nous souhaiterions, par cette mesure, essayer un peu vraiment de réduire les hypothèses qui viendraient de nos rangs, de sorte qu'on puisse aborder et toutes les autres hypothèses externes.
Monsieur le vice-gouverneur, vous avez également suivi la réaction de la société civile du Nord Kivu qui pense que cette disposition ne suffit pas.
Oui, c'est une disposition qui ne peut pas se suffire en elle-même. Ce n'est pas une disposition d'ordre public qui dirait, par exemple, à partir de maintenant, vous allez commencer à rouler à droite ou à gauche, ou dans ce rond-point, voilà ce qui va se faire. Donc, ce n'est pas une disposition qui se suffit elle-même. Elle est doublée, elle est couplée par des dispositions pratiques au niveau des militaires, au niveau des civils qui détiendraient des armes, mais aussi au niveau des opérations qui vont accompagner et même au niveau de l'autorité publique. Nous allons observer un regroupement parce que les escortes vont être réduites et donc redimensionnées et tout le surplus va être regroupé pour un autre redéploiement. Et pendant ce temps, il faut aussi des mesures d'accompagnement, des prises en charge Et c'est ce à quoi nous nous employons maintenant.
Maître Juvenal Mounoubo, vous êtes député national de l'opposition, cadre de l'UNC et rapporteur de la sous-commission Forces armées de l'Assemblée nationale. Comment vous analysez cette mesure de décréter Goma ville sans armes?
Merci Alain, je salue le vice-gouverneur M. Feller Loutaï-Chiroua. Avant de donner mon analyse, je voudrais tout d'abord signaler ici que la population de Goma vit dans un climat permanent d'insécurité. Et cela depuis plusieurs années. C'est une population qui côtoie la mort quasiment au quotidien. Vous savez, à Goma, à 18h, il faut être chez soi, il faut être à la maison, il faut fermer la porte, et il faut mettre des verrous. Et cela n'est pas un gage toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui opèrent, qui forcent la porte, effraction, fausse clé, etc. et qui commettent des assassinats, des vols à main armée, etc. Vous savez, la fête, une fête à Goma ne peut pas aller au-delà de 20 heures. Donc c'est vraiment une population qui vit dans la terreur. Et les causes par rapport à ça, le gouverneur a évoqué certaines causes. Évidemment, il y a eu une surmilitarisation de cette zone. Il y a la vague de 1994 avec l'arrivée des ex-FAR qui n'ont pas été systématiquement désarmés dans les camps de réfugiés. Il faut noter également la deuxième vague, l'entrée de l'AFDL avec des Kadougou. Il y a eu pas mal d'armes qui sont entrées sur les sols congolais. Et en 1998, c'était la deuxième guerre mondiale, disons la deuxième guerre du Congo. Là aussi, des armes ont pénétré le territoire congolais. Mais il faut signaler aussi l'armement des civils. Des civils ont été armés à une certaine époque au Nord Kivu. Vous n'avez qu'à lire certains rapports d'ONG comme les rapports de Human Rights Watch. Il y a des armes qui ont été distribuées aux civils dans les Massissi et d'autres territoires. Il y a des caches d'armes par-ci par-là en province du Nord Kivu. Raison pour laquelle, un premier conseil, il ne faudrait pas qu'on se focalise uniquement sur Goma. Un autre conseil, il serait intéressant que l'on explique vraiment la portée de cette mesure. Et pourquoi? Parce qu'on peut mal comprendre. Ville, Goma, ville sans armes, il y a certains qui peuvent penser que la ville de Goma sera dégarnie.
Donc, bien définir les concepts.
Bien définir les concepts, parce que le concept, s'il est mal compris, il peut prêter à équivoque et donc à interprétations diverses. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire à la population de Goma, voilà, ville de Goma, ville sans armes, ce qui passe comme compréhension, on peut penser qu'effectivement, il y aura plus des armes pour sécuriser la population. Ce qu'il faut prohiber, c'est quoi? C'est des militaires qui détiennent des armes non connues, non enregistrées. Si tout s'est passé dans l'ordre, eh bien, on devrait d'abord connaître les nombres exacts des militaires. On devrait également connaître les nombres exacts d'armes et des types d'armes. On devrait aussi défendre et désarmer les civils, parce qu'il faut aussi penser au désarmement des civils, un peu comme ce qui s'est fait à Ituri avec l'appui du PNUD, les désarmements volontaires communautaires des civils, avec une approche armes contre développement. On donnait des kits sous forme de kits de réinsertion, des motos ou alors d'autres objets qui peuvent des moulins. À manioc, ainsi de suite, ou des machines à coudre. Comme ça, ça incite ceux qui détiennent les armes à les déposer. Donc, il faut appliquer des mesures comme celle-là et pas comme ce qu'on a connu à une certaine époque, armes contre 100 dollars. Ça n'a pas eu vraiment de grande efficacité. Donc, je crois que si cette opération va effectivement aboutir à une identification des militaires, contrôler les mouvements des militaires. Un militaire ou un policier ne peut pas se retrouver dans un quartier sans que ses autorités, ses chefs hiérarchiques ne soient au courant. Pourquoi? Parce que ce qui arrive souvent, c'est que vous pouvez facilement croiser un militaire dans un quartier pratiquement qui déambule. Et il n'est pas sûr toujours que ses chefs connaissent les mouvements de ses militaires ou de ses policiers. Et vous savez que dans un pays où règne l'ordre, même les militaires, on ne devrait pas les voir circuler à gauche, à droite. Les militaires sont dans les casernes. Mais
d'emblée, la mesure est à saluer.
La mesure est à saluer, mais il faut communiquer, comme je le disais. Il faut communiquer cette mesure pour éviter toute interprétation, mauvaise interprétation. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas seulement se limiter à Goma. Je crois que le moment est venu pour lancer et concrétiser les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion. Pourquoi? Parce que on peut assainir Goma, mais aussi longtemps qu'il existe tout autour de Goma des groupes armés dans les territoires des groupes armés qui ne sont toujours pas désarmés et des programmes de réinsertion annoncés mais qui n'ont pas encore été exécutés, eh bien la menace restera toujours intacte.
Et donc vous pensez qu'on devrait par exemple arriver au niveau où on proclamerait carrément la province du Nord Kivu province sans armes?
Je crois que le désarmement dont question ici de toutes ces personnes qui détiennent les armes illégalement, je crois que ça ne concerne pas seulement que Goma. Je crois qu'il faut avoir une lecture globale. Et puis, il faut effectivement renforcer les contrôles sur les militaires. Il faut contrôler les mouvements des militaires, comme je le disais. Il faut aussi contrôler les frontières. Vous savez, un autre aspect, c'est celui-là. Nos frontières sont poreuses. La frontière entre le Congo et le Rwanda, entre le Congo et l'Ouganda.
Merci.
Les services migratoires, il faut une réforme en profondeur et il faut lutter contre la corruption.
Jean-Jacques Wondo, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir Alain Roum, bonsoir Honorable Mounoubo, bonsoir vice-gouverneur du Nord Kivu.
Je rappelle que vous êtes expert en questions militaires et analyste politique. Vous avez suivi le vice-gouverneur Feller Lutai Chirwa ainsi que l'honorable Mounoubo. Comment vous analysez cette mesure de proclamer Goma ville sans armes?
Je pense qu'il faut saluer cette initiative parce que le but est de réduire l'insécurité ou le sentiment d'insécurité dans la zone de Goma ou dans la ville de Goma. Cependant, laissez-moi vous rappeler qu'en 2010, il y a eu une vaste enquête de l'insécurité menée par le groupe de recherche sur la paix et la sécurité qu'on appelle GRIP, donc des chercheurs belges. Ils sont descendus sur le terrain au Kivu, dans le Kivu, au Maniema, dans les districts de Kamitanganyika et du Nord Kivu. Ils ont interrogé 10 000 personnes, ils ont mené une enquête sur le terrain pour recueillir leurs avis sur le sentiment d'insécurité. Et de cette enquête, il ressort que plus d'une famille sur 8 a été directement affectée par une agression armée. Les militaires des FARDC, les policiers, les bandits sont des catégories des gens les plus souvent cités comme acteurs de l'insécurité. Là, je salue l'idée que l'opération commence d'abord au niveau des casernes militaires et touche aussi les policiers, c'est-à-dire les personnes qui sont habilitées de pouvoir porter les armes. Et cette enquête a révélé encore que 4 fois sur 5, les armes ont été utilisées dans les violences subies par la population. Donc sur 5 violences, 4 ont été les faits de personnes qui ont pu utiliser des armes. Et contrairement aux idées récits, les violences avec les armes arrivent en première position, bien avant que les violences sexuelles. De plus, quand il y a violences sexuelles, celles-ci sont le plus souvent le fait des hommes en armes ou facilitées par la menace d'une situation des armes. Ben, ce qu'on peut relever par rapport à cette situation, c'est un peu la manière dont cette opération est décidée, sans que l'on ait plus de précisions sur la coordination de cette opération avec les autorités politiques, je dis d'abord nationales, provinciales, les autorités policières et la société, et surtout la société civile. Pour qu'une autre pareille opération aboutisse à des résultats optimisés, cela exige d'abord qu'il y ait un travail bien planifié, concerté et coordonné en amont et aussi en aval avec les différents acteurs que je viens de mentionner. C'est d'autant que l'enquête dont je viens de mentionner là montre aussi que les acteurs militaires et policiers ne sont pas les plus habilités pour mener des opérations de collecte des armes car ils font partie des facteurs ou des agents causant l'insécurité dans la région. En troisième lieu, je peux relever aussi que des réserves sur l'efficacité finale de cette opération, car, comme l'a dit l'honorable Mounoubo, limiter l'opération à Goma sans l'isoler des autres territoires, en mettant en place, par exemple, des checkpoints et de contrôles dans un espace assez porosif, donc où la porosité des frontières est quasi totale. Cela me laisse un peu dubitatif parce que comment on peut isoler Goma sans qu'il y ait des transferts d'armes de autres villes ou des autres villages ou des autres territoires environnants vers Goma. Et enfin, il faut aussi se dire que tout ça ne peut être efficace que si au niveau politique national, il y a des mesures qui sont prises. Et là, j'interpelle même le député Mounoubo qui est là. La loi relative aux armes légères et des petits calibres, il s'agit d'une loi essentielle censée répondre à l'exigence faite par la RDC de mettre en conformité sa législation nationale. Et des études ont montré que si cette loi est mise en œuvre, la loi a été votée, bien sûr, à l'Assemblée nationale et votée même au Sénat depuis le 3 décembre 2013, aujourd'hui pratiquement 11 mois, on attend sa promulgation par le président de la République qui n'est pas faite. Or, cette loi est un instrument important pour pouvoir travailler dans la gestion ou dans l'éradication de armes légères qui circulent dans la zone.
Jean-Jacques Kouondo, vous parlez de la loi sur la circulation des armes qui doit être votée, promulguée. Et donc, pour vous, à part cet aspect, quels sont les autres préalables pour que cette opération réussisse? Vous avez parlé de l'implication de la population, mais quand on y regarde un peu de près, la circulation des armes pose un véritable problème tant en RDC que dans la sous-région. Est-ce que c'est facile à maîtriser ça?
Ce n'est pas facile à maîtriser, d'autant plus que la zone de l'Afrique des Grands Lacs est comptabilisée parmi les zones où il y a plus de circulation des armes légères et des petits calibres. Mais quand on met des gens en opération, l'expérience a montré que si on associe dans la planification et l'exécution la société civile, cela peut permettre d'abord de mettre en place des actions de sensibilisation et qui pourraient amener aussi bien les militaires et les civils détenteurs des armes à pouvoir rendre les armes. Et parfois, on demande même que ce soit des programmes de désarmement civil qui soient vraiment pilotés par des civils de bout en bout pour éviter que certaines armes soient récupérées par les armées, soient réutilisées par la suite parce qu'on ne sait pas la destination finale. Il y a aussi des aspects régionaux dont il faut tenir compte. Mais je ne sais pas, à l'heure actuelle, la situation de la législation au niveau des pays voisins, mais c'est aussi une mesure qui doit tenir compte de la situation générale de la sous-région, effectivement.
Nous allons prendre pour vous, Jean-Jacques Kouondo, cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasai occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasai occidental. La décision du commandant de la 34e région militaire ne résoudra rien à Goma, y compris la proposition de la société civile du Nord Kivu n'est pas aussi une panacée. Je me demande pourquoi ne pas imiter la politique appliquée par Ngoï Moulunda à l'époque, celle tendant à échanger les armes avec d'autres biens.
Voilà, on se souvient de l'ONG PAREC du pasteur Ngoï Moulunda qui a facilité les opérations de remise d'armes, armes contre toll, armes contre vélo, armes contre 100 $, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques Kouondo? L'honorable Mounoubo a dit que dans certaines mesures, ce n'était pas très efficace.
J'irai dans le même sens que l'honorable Mounoubo, parce que nous savons la destination finale de la plupart des armes qui ont été récoltées dans le cadre des opérations menées par le pasteur responsable du mouvement PAREC. Beaucoup de choses ont été faites au nord Tanganyika. Aujourd'hui, vous allez au nord Tanganyika, c'est là où les Bakata Katanga et consorts sont en train de semer les désordres. Et par après, on a appris que ces armes ont eu d'autres destinations, et notamment sont retrouvées entre les mains des FDLR. Donc il faut que tout cela soit cadré avec la législation nationale et internationale et accompagné aussi par la communauté internationale, notamment la MONUSCO, dont je salue aussi la participation à cette initiative. Mais il faut qu'il y ait plusieurs pôles qui peuvent coordonner cela pour ne pas laisser cette opération, pour ne pas laisser que cette opération soit menée de façon unilatérale par un seul groupe qui ne serait pas sous contrôle de la population ou des autorités.
Monsieur le vice-gouverneur Feller Lutaïchiroa, vous avez suivi, il y a beaucoup de préoccupations soulevées par l'honorable Mounoubo et Jean-Jacques Kouondo, notamment la question de la coordination de cette opération, la question de la définition même des concepts. Qu'est-ce que vous y répondez?
Oui, et je salue l'analyste Ewondo, et je salue aussi son analyse, parce que la question de la circulation des armes légères, c'est une question complexe, et ici, dans la sous-région, et particulièrement à l'est du Congo, c'est une question énorme. Et quand il a parlé de l'organisation GRIP, pour nous, c'est le moment de dire que nous devrions comprendre qu'actuellement, avec l'accord cadre de Addis Abeba, les organisations qui sont impliquées dans l'interceptation, pour intercepter la circulation des armes, parce que vous savez qu'au Congo, nous ne fabriquons pas les armes, les organisations pourraient s'appuyer sur l'accord cadre pour faire aussi l'évaluation de cet enjeu de la circulation des armes légères et de petits calibres. Et ce serait le moment d'essayer un peu d'agiter le plaidoyer des organisations comme les CRUP et d'autres réseaux qui travaillent sur les armes légères, pour qu'ils puissent aussi procéder à des évaluations et se formuler aussi des feuilles de route pour que, au niveau des pays voisins, on puisse intercepter la circulation des armes, la circulation illégale des armes. Donc la question, elle est complexe. Parce que entre-temps, c'est une question énorme, parce que au niveau de l'Est du Congo, au niveau des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, la province orientale, il y a eu aussi des caches d'armes. Et ces caches d'armes allaient être utilisées par des réseaux qui souhaitent toujours déstabiliser notre pays, et raison pour laquelle, à ce niveau-là, il faudra une expertise avec d'autres agences, avec des agences des Nations Unies, avec la mission de stabilisation des Nations Unies. Et c'est pour ça que nous devrions commencer quelque part. Nous avons commencé par le territoire de Masisi, et il va y avoir des opérations musclées pour qu'on puisse dénicher les caches d'armes. Mais ce sont des opérations qui ne pourraient pas se faire tant qu'il y avait encore des groupes armés qui pullulaient dans toutes les collines ici à l'Est. Et comme les groupes armés deviennent maintenant fragiles, nous considérons que c'est le moment d'entamer des opérations musclées, des opérations participatives. Merci. Avec les communautés, avec tous les leaders, avec la société civile, avec la participation de tous, pour qu'on puisse procéder au ramassage des armes. Et là où il en faudra,
merci,
il faudra même organiser des dialogues sociaux pour réduire les angoisses communautaires et autres. Donc nous sommes conscients qu'effectivement, cela est complexe, mais nous avons déjà commencé avec le territoire de Masisi, ça va se poursuivre.
Monsieur le vice-gouverneur.
Et alors, pour ce qui concerne Goma,
Monsieur le vice-gouverneur,
Goma, la mesure qui a été prise, c'est pour réduire les hypothèses qui seraient relatives à nos propres.
Monsieur le vice-gouverneur.
Et comme ça, il n'y aurait pas confusion.
Monsieur le vice-gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Crispin Alibou de Dungu, province orientale. Le drame dans ce pays reste ce refus de s'attaquer aux vraies causes des problèmes plutôt de se distraire à leurs effets. Oui, pour l'opération Goma sans armes. C'est vraiment la fouille dans le mur qui s'avère indispensable, ou alors la fouille de cœur des Congolais. Nos compatriotes, détenteurs autorisés d'armes, affamés, avec salaire dérisoire, se retrouveront-ils leur sort amélioré par la dite opération, spécialement ceux de Goma?
Brève réaction, monsieur le vice-gouverneur.
Oui, nous pensons que notre compatriote Christin n'a pas tort quand il dit est-ce que ça va porter des fruits? Mais nous nous disons que effectivement cela va porter des fruits. Parce que en faisant cet assainissement-là, nous comptons sur les FAPC pour qu'on puisse procéder à la fouille des caches d'armes et même à la démilitarisation des civils.
Merci.
Qui seraient illégalement armés. Vous savez que tous les groupes armés vont être traqués, sérieusement traqués, et nous considérons que nous devrions resserrer et assainir nos rangs, redimensionner les escortes,
merci,
localisation de tous les commandants.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable Mounoubo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Amos Bissi, moi, de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu.
Déclarer Goma une ville sans armes ne peut pas mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la République. Nos autorités doivent savoir que tant qu'il n'y aura pas d'emploi pour les jeunes chômeurs, garantir aux policiers, voire aux militaires de bonnes conditions de vie, mais aussi en mettant fin à l'impunité qui bat son plein en RDC, toute mesure qu'on peut envisager pour lutter contre l'insécurité sera une simple distraction partout au pays, car ce sont souvent les mêmes agents de l'ordre qui sèment l'insécurité pour leur survie.
L'emploi pour les jeunes comme solution et mettre fin à l'impunité, honorable Mounoubo, est-ce que c'est efficace pour vous?
Je crois que M. Bissimo a totalement raison, je suis d'accord avec lui. Vous savez que ça me donne, j'ai un peu peur, de voir cette jeunesse congolaise nombreuse à Kinshasa, dans les autres villes de la RDC, une jeunesse sans perspective de lendemain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique gouvernementale de promotion de l'emploi. Il n'y en a pas, pour le moment. C'est ce que nous demandons, nos députés. C'est ce que demande non simplement l'opposition, mais la société civile également. Il faut une politique donc de plein emploi, une politique de promotion de l'emploi. Si les jeunes restent sans perspective, c'est une bombe à retardement. Il en est de même de toute cette jeunesse qui a été employée dans les groupes armés. Il faut, et c'est pourquoi je souligne, et je ne cesse de le dire, l'importance et l'urgence de lancer, de concrétiser les programmes DDR. Je sais que l'argent n'est pas encore mobilisé, parce que pour les DDR 3, l'on réclame 85 millions de dollars, si j'ai bonne souvenance, mais les 18 millions de dollars, 10 millions annoncés, doivent être libérés par le gouvernement et 8 millions, je crois, par la MONUSCO. Je crois qu'il faut commencer avec les 18 millions. Bref, il faut commencer le DDR. C'est important. Et évidemment, ceux là qui ont été des ex-combattants qu'on a relocalisés à Kotako, liés ailleurs, eh bien, il faut songer aussi à leurs conditions de vie. C'est pas moi qui l'ai dit, il y a Human Rights Watch qui a publié récemment un rapport alarmant là-dessus. Et il a raison aussi, il a soulevé une autre question importante, c'est lié à la réforme de l'armée. La réforme de l'armée se concrétisera lorsque le militaire sera placé dans des conditions de vie et de travail acceptables. Le militaire qui a une famille à nourrir, le militaire qui doit vivre suivant les respects des conditions minimum de vie. Mais la lutte contre l'impunité, effectivement, donc ces commandants, il y a des commandants qui détiennent des armes, et il n'est pas toujours évident que l'état-major a le contrôle de toutes ces armes détenues par des commandants, et s'il y a donc des commandants qui détiennent des armes, il faut qu'ils soient sanctionnés.
Alors, où en est-on avec la loi sur la circulation des armes de petit calibre, comme demandait Jean-Jacques Wando?
J'ai ici une note signée par le monsieur Léon Kengo Adondo, donc le président du Sénat. Au fait, la loi avait été adoptée en termes non identiques. Et lorsqu'une loi est adoptée en termes non identiques, c'est une commission paritaire qui devrait statuer. Donc je dois moi-même suivre cette question au niveau de la commission de défense et de sécurité, s'assurer si quand est-ce que la paritaire pourra se prononcer définitivement sur ça. C'est une loi importante. Pourquoi? Parce que la loi, la législation en cette matière, en la matière, c'est l'ordonnance de 1985. C'est cette ordonnance qui réglemente la chasse, par exemple, les armes de chasse, qui réglemente les permis des ports d'armes, où on demande à une personne, celui qui veut avoir une arme, être autorisé à porter une arme, il doit être de bonne vie, conduite à mer, c'est produire un extrait des casiers judiciaires. Mais cette ordonnance-loi devrait être actualisée. Pourquoi? Parce qu'il y a le protocole de Nairobi dans l'espace CIRGEL qui a été signé également par la RDC. Il faut que cette loi s'adapte et soit actualisée aux réalités actuelles. Il y a aussi les traités de commerce des armes qui doivent être ratifiés par la RDC.
Vous avez suivi, monsieur le vice-gouverneur, dire que l'accord cadre peut aujourd'hui servir comme outil d'évaluation de la circulation des armes au niveau même de la sous-région.
Oui, vous savez, dans la mesure où l'accord cadre engage plusieurs États de la sous-région, tous les membres de la CIRGEL, il faut un système d'alerte précoce au niveau de la sous-région. Oui, il n'y a aucun pays de la sous-région des Grands Lacs, de l'espace CIRGEL, qui fabrique les armes, mais les armes transitent par ces pays. Avant que les armes n'arrivent en République démocratique du Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, en province orientale, c'est des armes qui transitent par les pays de l'Afrique orientale, qui sont tous membres, en tout cas une bonne partie, les Kenyans, l'Ouganda, les Rwanda, la plupart de ces pays sont membres de la CIRGL. Et étant donné que tous ces pays ont signé cette fenêtre d'opportunité qu'on appelle accord cadre d'Addis Abeba, ils doivent contribuer à les respecter. Et il n'y a pas que l'accord cadre, il y a d'autres dispositifs préexistants. Il y a les pactes de Nairobi, il y a le protocole de Nairobi sur les contrôles dans la sous-région des armes légères. Ça ne sert à rien de signer un traité, une convention, un accord, tel l'accord cadre, et de ne pas l'exécuter de bonne foi. Donc ici, en tant que député congolais, je lance un message à tous ceux-là qui peuvent les suivre, que les États soient visités par la bonne foi d'appliquer les accords signés.
Jean-Jacques Ouando, il faut un système d'alerte entre les différents États qui ont signé plusieurs traités pour contrôler la circulation des armes, mais on sait aussi qu'il faut une bonne dose de confiance entre ces États.
Il faut une bonne dose de ces États, mais pour l'instant, l'instrument qui nous permet d'avoir une bonne dose de confiance reste l'accord cadre, parce que c'est un accord qui a été signé par 11 États de l'Afrique des Grands Lacs. Je pense que si chaque État prend conscience qu'il doit, de son côté, mettre en œuvre tous les engagements auxquels il a souscrit, ça peut déjà créer une situation de confiance mutuelle. Et parlant de certaines mesures ou de certains dispositifs qu'on peut prendre, il faut aussi veiller au strict contrôle du respect de l'embargo sur les armes en RDC, parce que c'est vrai que l'embargo ne touche pas les forces loyalistes et les FRDC, mais ça touche tous les groupes armés. Or, paradoxalement, on se rend compte que ce sont ces groupes armés qui parfois sont mieux armés, mieux approvisionnés que notre armée. Donc, cela exige qu'il y ait des mécanismes assez drastiques, rigoureux pour vérifier l'embargo, notamment au niveau des frontières, dans nos douanes et consorts. Voilà.
Alors, il y a Amos, l'auditeur de Bukavu, qu'on a suivi tout à l'heure, qui plaidait pratiquement pour que l'on remette les jeunes au travail à travers des emplois décents. Et l'honorable Mounoubo a aussi insisté sur la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité, qui, selon certains observateurs, semble traîner un peu le pas.
Ben, effectivement, je n'irai pas en sens contraire, parce que l'arme devient un outil de gagne-pain aussi bien pour le militaire, le policier que certains bandits. Si les militaires, les policiers ou les bandits se servent de leurs armes, c'est parce que leurs conditions de vie ne permettent pas de subvenir convenablement à leurs besoins. Cela nous ramène à la problématique de la même poursuite de la réforme de l'armée, de la police, notamment en leur dotant de soldes dignes. Quand on dit digne, c'est quelque chose qui doit permettre à une personne de vivre convenablement suivant le critère de la dignité humaine. Et je pense que les deux interventions précédentes des auditeurs sont revenus là-dessus, l'honorable est revenu là-dessus. Et il y a aussi l'aspect de DDR, parce que, comme l'honorable l'a clarifié avec tout l'argent qui était prévu, actuellement on est à pratiquement le quart du budget qui est prévu pour la démobilisation ou la réinsertion des anciens combattants. Tout cela nécessite aussi une certaine dose de volonté politique pour aller plus loin dans ces réformes, dans la mise en place des politiques qui ne soient pas limitées seulement aux aspects sécuritaires, mais c'est vraiment toute la gouvernance, mettre les jeunes dans l'emploi, créer des conditions de vie, des conditions sociales qui permettent aux citoyens d'avoir une activité qui leur permet de se détourner de voies criminelles, aussi peut-être prévoir aussi des mécanismes judiciaires, lutter contre l'impunité et contre la criminalité par une justice qui accompagne toutes ces actions.
Alors, il y a Josapha Kazimoto qui nous écrit de Durban en Afrique du Sud, qui pense qu'il faudrait commencer par trouver les vraies causes. De votre point de vue, Jean-Jacques Ouando, pensez-vous qu'on a déjà diagnostiqué les vraies causes de l'insécurité au Nord Kivu, ou c'est toujours des traitements cosmétiques que l'on fait?
Je pense que la question que vous posez nécessite toute une émission à part entière, parce que les vraies causes de l'insécurité non normative, c'est pratiquement la question qui se pose pour tout l'être du Congo. Donc il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes. Les causes endogènes, c'est aussi d'abord la situation politique, les conditions de vie, la pauvreté, les richesses, tous ces conflits interethniques, tout cela font partie des causes qui alimentent l'insécurité, sans compter les causes exogènes avec tous les convoitises des pays autour du Congo sur les richesses. Donc, je pense qu'on n'a pas épuisé toutes les causes sont connues, mais ça nécessite toute une émission entière pour les expliquer en détail.
Alors, on a l'impression que la RDC est prise en sandwich à travers plusieurs causes. Est-ce qu'il sera facile à travers une opération comme celle de Goma, ville sans armes, ou même Nord Kivu sans armes, est-ce qu'il sera facile de réussir?
Ben, je l'ai dit au départ que j'étais assez dubitatif. Il faut saluer l'initiative, mais à mon avis, l'initiative ne va pas suffisamment très loin. Et je pense que si on le couple avec d'autres éléments qui ont été évoqués autour de cette émission, et notamment avec, il y a cette loi-là qui doit être promulguée, il y a d'autres aspects dont il faut tenir compte, et hélas, mais bon, comme le vice-gouverneur a dit, il fallait commencer quelque part, on commençait quelque part, mais je reste dubitatif quant à l'efficacité à long terme de cette activité, parce que c'est vraiment toute la politique sécuritaire même du Congo qu'il faut revoir, toute la politique sécuritaire de la région qu'il faut revoir.
Merci.
Et cela exige aussi d'autres aspects politiques. Oui.
Monsieur le vice-gouverneur, il nous reste moins de 4 minutes, il faut déjà conclure. Maurice de Kinshasa dit qu'un État ne se gère pas à travers les slogans, ni encore à travers des décisions qu'on décrète de ce genre, et vous avez suivi Jean-Jacques Ouondo qui est dubitatif quant à la réussite de ce type d'opération. Monsieur le vice-gouverneur, qu'est-ce que vous en dites en guise de conclusion?
En guise de conclusion, Alain, je veux dire d'abord que nous ne devrions pas faire croire à notre jeunesse que quand on est en chômage, il faut recourir aux groupes armés, parce qu'à ce moment-là, on recule de 5 ans, de 10 ans. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait sécurité pour qu'il y ait emploi, pour que les investisseurs viennent. Et donc, nous considérons que cette justification-là, qui risque de justifier le surplace, le cercle vicieux, c'est pratiquement une justification qui est très, très dangereuse. Et présentement, tous les groupes des armées doivent être éradiqués. Ils sont invités à la reddition volontaire et les groupes armés qui ne vont pas s'exécuter vont être éradiqués des forces.
Merci.
Et cela va améliorer l'environnement qui pourra permettre à ce que le DDR s'applique correctement.
Merci.
Et qu'ensuite on puisse procéder à un programme de ramassage des armes et
Merci.
Faire de sorte qu'avec l'appui externe, on puisse éviter que nous ayons encore des armes illégales.
Merci, Monsieur le vice-gouverneur. Honorable Mounoubo, conclusion.
Je crois qu'on peut présenter un plan qui s'étend sur 6 mois. Les 3 premiers mois pourront être consacrés à la sensibilisation. Il faut sensibiliser tous ceux qui détiennent les armes illégalement. Donc je vois ici les civils qui auraient reçu les armes. Et je crois que le partenariat est très important. Il y a la Commission nationale de contrôle des armes légères qui doit être présente. Ces experts doivent être là. Il y a le PNUD, il y a la société civile. Et après ça, je crois qu'il faudra absolument penser à des mesures de désarmement forcées.
Merci.
Et les mesures de couvre-feu, de bouclage sont des mesures importantes aussi.
Merci. Jean-Jacques Ouondo, conclusion.
Ben, la conclusion, je reviens sur la nécessité pour vous promulguer la loi sur les armes légères de petit calibre, mener les actions de sensibilisation comme l'a dit l'honorable Mounoubo, et élaborer un programme de civil qui va tenir compte de l'influence de la pauvreté et de de la situation socio-économique de la région.
Merci.
Les
mesures
doivent être accompagnées aussi par des mesures judiciaires de lutte contre la criminalité, contre le crime.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Kéline Kouté, Béry Franklin Luchaka, Alain Goy, qui m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Julien Nyamouigny. Moi, c'est Alain Roum, je l'ai présenté, je l'ai coordonné également. Et vous nous avez suivis. Merci de votre attention. Au revoir.